Radio Kapi. Incursion hier samedi des ADF à Somé, village situé à 165 km de Bounia dans les territoires de Mambasa en Ituri. Bilan encore provisoire, au moins une personne tuée, 5 véhicules dont 3 camions-citernes et 6 maisons incendiées. Et puis 3 gouverneurs et un vice-gouverneur honoraire récusent le blocage de leur réintégration à l'Assemblée nationale après leur fonction élective. L'un d'eux, Crispin Gbundu, ancien gouverneur de la Mongala, vous allez l'entendre, s'est étonné samedi que leur dossier ne soit pas résolu 7 mois après l'arrêt de la Cour constitutionnelle les réhabilitant. Enfin, nous recevons un invité dans cette édition du journal, le cardinal Fridolin Ambongo. Il s'agit de sa conférence de presse de vendredi dernier sur le conflit Teke-Yaka qui sévit dans le territoire de Kwamout après une mission pastorale qu'il a effectuée dans le Grand Bandundu. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Au moins une personne tuée, 5 véhicules dont 3 camions-citernes et 6 maisons incendiées. C'est le bilan provisoire de l'incursion hier samedi des ADF à Somé, village situé à 165 km de Bounia dans les territoires de Mambasa en Ituri. Selon des sources locales, cette attaque a provoqué un mouvement de population dont certains ont été emmenés en brousse par l'ennemi dans leur fuite. La nouvelle société civile congolaise de ce territoire appelle l'armée à lancer des offensives contre les positions de ces rebelles et leurs supplétifs Mai Mai afin d'empêcher leur progression vers le centre du territoire. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Cette nouvelle incursion des rebelles des ADF a été signalée tôt ce matin autour des 6 heures locales. Avec leurs alliés Mai Mai, ils ont pris d'assaut les habitants du village des Sommets à 26 km sur la route Biakato-Mambasa. Surpris par des tirs d'armes aux petites heures du matin, certains habitants ont pris la direction de Beni, d'autres se sont dirigés vers Bangolé et Mayuano avant l'intervention des FARDC et qui a permis de limiter les dégâts. Le coordonnateur de la nouvelle société civile de Mambasa indique que le bilan provisoire de cette attaque fait état de 5 véhicules incendiés par ces rebelles ainsi que 6 maisons d'habitation. Un taximen a été également tué et sa moto endommagée, poursuit la même source. John Vuleverio invite les militaires à renforcer leur effectif dans cette zone pour empêcher la progression des rebelles vers le centre du territoire. De son côté, l'administrateur du territoire appelle la population au calme et surtout à collaborer avec les services de sécurité pour dénicher l'ennemi qui cherche à saboter le processus de paix en cours. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et puis au Nord Kivu, le gouverneur de province vient d'accepter la mise en place d'une commission mixte opérateurs économiques et gouvernement pour examiner la possibilité de rabattre ou de supprimer les taxes indûment perçues. C'est à l'issue d'une rencontre qu'il a eue vendredi dernier avec l'intersyndicale des petits commerçants de Butembo, de Beni et certains de Goma. Accompagné auprès du gouverneur militaire par le vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, ils ont expliqué au gouverneur à quel point l'insécurité a ruiné l'économie dans la partie nord de la province du Nord Kivu, ce qui place plusieurs opérateurs économiques dans l'impossibilité de payer les taxes. Le vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Jean-Paul Lumbulumbu, revient sur les conséquences de l'insécurité dans cette partie de la province.
Il y a des camions qui sont incendiés, il y a des marchandises qui sont pillées, les routes sont dans un état tel que l'ennemi en profite pour appauvrir davantage le petit commerçant. Cela affecte son capital et son bénéfice, de telle sorte que le commerçant devient dans l'impossibilité de s'acquitter de ses obligations du fisc. La rencontre avec le gouverneur a consisté à solliciter du gouverneur un plaidoyer au niveau national afin que la province du Nord Kivu, si par certaines zones, notamment Beni Butembo, soit déclarée des zones sinistrées. En attendant cette décision, les commerçants ont sollicité des allègements fiscaux par rapport à certaines taxes et à certaines pénalités inutiles. Par exemple, le gouverneur de province avait déjà pris une décision suspendant le paiement de la taxe professionnelle annuelle, mais il y a des agents de l'État véreux qui reviennent et qui tracassent la population, et le gouverneur n'est pas d'accord sur cette question-là. C'est aussi le cas du paiement du bordereau à la Cadeco. Il n'est pas concevable que lorsque vous venez payer l'argent de l'État, que vous puissiez encore payer autant de dollars pour les comptes du bordereau.
Et puis notez que ce lundi 24 octobre, le gouvernement provincial organise un dialogue fiscal qui va réunir toutes les parties prenantes afin de mettre au clair toutes ces questions. Et puis le développement d'un milieu ne viendra pas de l'extérieur. Il doit d'abord commencer à la base, d'où l'appel à la valorisation de nos produits au niveau local. Cet appel a été lancé ce samedi à Butembo lors de la clôture d'une formation sur l'entrepreneuriat. C'est la fondation dénommée Zawadi Mangolopa Kavira, en collaboration avec les établissements Suzanne Production de Goma, qui ont formé une vingtaine de personnes désœuvrées en métier manuel. Les participants pensent que cette formation va contribuer à leur façon de vivre indépendamment que de demeurer dans la dépendance. Reportage à Butembo de Grévis Saloum.
Les participants ont été formés durant une semaine sur la fabrication du savon à multiples usages ainsi que sur les jus frais à base de fruits naturels. Zawadi Mangolopa Kavira, responsable de la fondation portant son nom et initiatrice de cette formation, affirme que l'organisation de cette dernière est une manière non seulement de lutter contre le chômage mais surtout d'interpeller la conscience de tout un chacun sur la valorisation de la culture locale afin de booster le développement basé sur les atouts communautaires.
Nous voulons assez que Butembo soit transformé à partir de nos atouts. Un vrai développement doit venir de nous-mêmes, valoriser les locales. C'est pour cela que nous avons commencé avec la formation des activités que nous pouvons faire nous-mêmes, en montrant les gens que nous sommes appelés à utiliser ce que nous avons.
Satisfaction pour les participants. Ils disent être suffisamment outillés sur des notions qui vont les aider à subvenir à leurs besoins, plutôt que de compter sur une main étrangère. C'est ce que dit Joël Mouteke Mumbere, un des lauréats.
Je suis maintenant apte à produire un jus qui pourra être d'une bonne qualité dans la ville. Cette formation m'aidera d'abord pour l'auto-prise en charge.
Soulignons que la fondation Zawadi Mangolopa Kavira projette une autre formation en métier manuel dans les jours qui suivent.
Autre nouvelle, l'association Caribou Jeunesse Nouvelle forme 18 jeunes ambitieux de la ville de Bukavu sur l'observation, le monitoring du processus électoral et le marketing électoral. Cette formation de 3 jours s'est clôturée ce samedi 22 octobre au chapiteau de Bagira. Cet atelier de Caribou Jeunesse Nouvelle rentre dans le cadre du projet Campagne d'éducation civique et de mentorat pour la participation effective des jeunes au processus électoral. Le point avec Rachel Kessembang.
C'est par un appel à candidature que l'association Caribou Jeunesse Nouvelle a sélectionné 50 jeunes ambitieux du Sud Kivu. Pour cette première phase, 18 jeunes de Bukavu suivent une formation pour être candidats ou observateurs dans les prochaines échéances. Jolie Kamoutou, présidente de KJN.
Nous allons être à Kavumu avec les jeunes de Kalehe, Iji, Kabare et Fizi. C'est après ça que le mentorat va commencer avec des mentors qui ont été identifiés pour partager leurs expériences et pour les accompagner à participer effectivement au processus électoral.
Une formation d'une grande nécessité pour ces jeunes ambitieux qui savent aujourd'hui quelles actions mener pour se vendre en tant que candidat. L'un d'eux s'exprime en ces termes.
On nous a appris en tout cas comment est-ce que nous devons faire un marketing électoral. Nous, on ignorait avant comment est-ce qu'on doit se faire connaître dans la communauté. Mais aujourd'hui, en tout cas, on a appris comment est-ce que nous devons nous vendre en tant que jeunes candidats. Quelles sont les actions que nous devons poser dans la communauté. Cette formation, elle est très capitale pour nous, les jeunes candidats. Nous devons en tout cas beaucoup travailler parce qu'on nous a dit on ne gagne pas les élections à la veille. On gagne les élections beaucoup de temps avant.
Cette formation est le premier round sur les 3 qui seront organisés dans le cadre de ce projet avec les jeunes des territoires. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Et puis les 14 élèves qui avaient inhalé le jeudi dernier un produit toxique leur aspergé par un autre élève dans leur école située au quartier Gambela 2 dans la commune de Lubumbashi sont désormais hors danger. La confirmation est de leur préfet qui cite les sources médicales. Cette situation qui a créé une panique dans cette école est désapprouvée par plusieurs personnes dont le coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme dans le Haut-Katanga. Ces derniers interpellent les parents et les responsables d'école pour qu'ils encadrent les enfants en toute responsabilité. Le point avec Jean Gandou.
D'après le préfet de cette école, l'état de santé de ses élèves, dont certains étaient en soins intensifs, s'améliore. S'il y en a qui sont déjà rentrés en famille, les autres les seront dans les prochaines heures. L'ONG Cepedo, qui a alerté l'opinion, indique que l'auteur de ce forfait est un élève de la même école en 4e des humanités. Il aurait pris le flacon d'un produit toxique dont la nature n'est pas encore connue auprès des éléments de la police qui montent la garde chez lui à la maison. Arrivé à l'école, il a aspergé ce produit dans la salle de classe de la 6e année. Une fois que les élèves l'ont inhalé, ils ont commencé à tomber les uns après les autres. autres. Leurs collègues qui ont assisté à ce spectacle quelque peu insolite ont vite alerté le responsable de l'école pendant que le principal suspect prenait les larges. Il a été maîtrisé et conduit au poste de la police le plus proche. Pendant ce temps, les victimes, 14 au total, ont été transférées à l'hôpital. 10 dans une polyclinique située non loin de l'école et les autres conduits aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Certains parents ont récupéré leurs enfants pour les amener dans d'autres structures médicales. Le présumé auteur de cet acte, vu son âge, a été transféré au tribunal pour enfants, tandis que les autres qu'il a cités sont gardés au cachot de l'auditorat militaire à encore l'ONG CPDO. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, 3 gouverneurs et un vice-gouverneur honoraire récusent le blocage de leur intégration à l'Assemblée nationale après leur fonction élective. L'un d'eux, Crispin Gbundou, ancien gouverneur de la Mongala, s'est étonné hier samedi que leur dossier ne soit pas résolu 7 mois après l'arrêt de la Cour constitutionnelle les réhabilitant. Il juge injuste ce comportement du bureau de l'Assemblée nationale qui, selon lui, torpille la constitution du pays et fait fi de la décision de la justice. Au nom de ses collègues concernés, Crispin Gbundou en appelle à l'arbitrage du chef de l'État pour qu'il rentre dans leurs droits. Il est dit au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
C'est au nom de mes collègues gouverneurs honoraires de Kasaï Central, Martin Kabuya, du Congo Central, Antou Matubwana, du vice-gouverneur de Kinshasa, honorable Nero Mbungu, et de moi-même, Crispin Gbundou Malengo, gouverneur honoraire de la Mongala, que je prends la parole en ce jour pour dénoncer les comportements injustes et anticonstitutionnels du bureau de l'Assemblée nationale. Le 1er mars de cette année, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt Airconst 1606, tranchant définitivement sur cette question de la reprise de plein droit des mandats parlementaire des anciens gouverneurs et vice-gouverneurs. De la fin de cette fonction incompatible, le parlementaire reprend de plein droit son mandat selon le prescrit de l'article 151 et 166 de la Constitution. Le 15 mars, nous avons même siégé à l'Assemblée nationale, mais sans voir nos noms inscrits sur la liste des députés. Depuis lors, le président de l'Assemblée n'a jamais instruit ses services à inscrire nos noms afin de nous permettre de siéger valablement face à cette injustice criante. Nous en appelons à l'arbitrage du président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions.
Contacté, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Lembi, dit connaître ce dossier. Il estime par ailleurs que cette question sera résolue entre la Cour constitutionnelle et la Chambre basse du Parlement. En actualité, c'est aussi cette solidarité et encouragement au prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege a déclaré sa candidature au présidentiel de 2023. Cet engagement renouvelé est du mouvement social Appel Patriotique, regroupant intellectuels et autres classes de la RDC. À l'occasion de la conférence de presse sur l'installation de sa coordination provinciale ici à Kinshasa ce samedi, le mouvement Appel Patriotique déclare soutenir l'idée de la candidature de Mukwege à la magistrature suprême compte tenu de son intégrité et des valeurs qu'il incarne. Professeur Michel Bissakiboul, coordinateur provincial du mouvement Appel Patriotique, justifie leur choix au micro de Billy Yvan Lutumba.
Aujourd'hui, le pays qui a toutes les richesses nécessaires pour son développement manque une seule chose, c'est la partie éthique, la partie moralisation dans la gouvernance publique. Cette moralisation est assise sur l'amour du pays, l'amour des Congolais. Depuis 1960 à ce jour, nous avons manqué à la tête du pays un leadership pétri de ses valeurs, qui puisse joindre à la fois les compétences intellectuelles et les compétences éthiques et morales. Et nous sommes convaincus, au regard de ce que Denis Mukwege a fait dans sa vie, que c'est le candidat idéal pour pouvoir à la fois joindre ces deux puissances. Et au nom de cela, nous estimons que Denis Mukwege, c'est le meilleur d'entre nous. Là où il est, il a rendu service à des Congolais, c'est bien. Mais nous voulons qu'il continue à les rendre à une échelle beaucoup plus nationale, qu'il nous faut un leader au profil de Denis Mukwege.
Actualité internationale.
En international, la junte au pouvoir en Guinée a accepté de rendre le pouvoir aux civils au bout de 2 ans, renonçant sous la menace de sanctions imminentes à diriger le pays pendant 3 années, a indiqué son chef Mamadi Doumbouya et un document de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais Mamadi Doumbouya a ensuite précisé que ce calendrier prend effet à compter du 1er janvier 2023, ce que dénoncent les forces vives de la nation et une large majorité de la classe politique. Et puis un Palestinien a été tué hier samedi dans le nord de la Cisjordanie, occupé par des soldats israéliens, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Selon le ministère, il s'agit de Rabbi Arafat Rabbi, 32 ans, touché d'une balle à la tête à un checkpoint situé au sud-est de la ville palestinienne de Kalki Lai.
L'invité.
En invité du jour, nous revenons sur la conférence de presse animée vendredi à Kinshasa par le cardinal Fridolin Mbongo, l'archevêque de Kinshasa, sur le conflit Teke-Yaka qui sévit dans les territoires de Kwamout. C'est après une mission pastorale qu'il a effectuée dans le Grand Bandundu. À part les deux dernières questions posées par notre reporter Grace Amouzati, d'autres questions ont été posées par les confrères d'autres médias, notamment la Radio France Internationale RFI. Suivez.
Est-ce que vous avez entendu ou vu des sujets étrangers à Kwamout ou partout où vous êtes passé? J'aimerais préciser, est-ce que vous avez vu des sujets rwandais sur place?
Moi, je viens, comme vous le savez, j'ai fait deux fois le voyage de Kwamout. J'ai eu à parler avec les gens qui sont sur le terrain, qui ont vécu les événements. J'ai eu à parler avec les autorités du pays qui sont sur place là-bas, même les différents services de l'État. La vérité, c'est que moi, personnellement, je n'ai rien observé et aucun de mes interlocuteurs, aucun de tous ceux que nous avions rencontrés ne nous a parlé des gens venus d'ailleurs. Tout le monde reconnaît que c'est un conflit entre les Teke, notamment les chefs de terre, et ceux qui ont acheté des terres, qui ont fait venir des travailleurs sur leurs plantations. Voilà pourquoi, au cœur de ce conflit, il y a d'abord eu la question des redevances. Moi, je ne peux pas affirmer des choses que je n'ai pas vues.
Pascal Moulégois, RFI.
Kinshasa est convaincu qu'il y a une main noire derrière ces violences, partant notamment du constat sur les modus operandi. Et ce qui égorge, c'est comme les ADF, ils utilisent des machettes, peu sont tués par des armes à feu. Pensez-vous exactement qu'il y a une main noire au-delà des sept géoethnies que vous avez expliquées, conflit des terres et consorts?
Ça me fait sourire quand on parle de main noire. Parce que si la mer noire, on ne voit pas. Je sais seulement que le conflit est d'abord un conflit de terre. Ce qu'on pourrait peut-être appeler une main noire, c'est ce que j'ai appelé tout de suite la dimension politique. C'est-à-dire une sorte de concurrence pour le contrôle de la terre. Et s'il y a une main noire, ben c'est une main qui part de Kinshasa pour le contrôle de ces territoires-là.
Radio Capi, grâce à vous.
La question sur la corruption entre l'événement de Yumbi et celui de Kwamout. Vous qui vous êtes rendu sur les lieux, c'est quoi l'analyse personnelle de cette corrélation-là? Qu'est-ce qu'on cherche finalement à chaque fois qu'on s'approche des élections? Il y a des événements malheureux dans cette région.
La corrélation entre les événements de Yumbi et de Kwamout, ce sont deux conflits autour de la question de la gestion de la terre, que ce soit à Yumbi, que ce soit à Kwamout. Les deux arrivent dans un contexte préélectoral. Là, c'est un constat que nous faisons. Nous pensons plutôt que si le conflit de Yumbi avait été géré de façon qu'on aille jusqu'à la racine et qu'on clarifie le problème de la gestion de la terre, entre le peuple voisin, je crois que ça aiderait à résoudre le problème de Kwamout. Étant donné que la question de Yumbi a été traitée de façon, on dirait, inachevée, on ne sait pas si ce dossier est complètement terminé. Naturellement, la question de fond n'est pas abordée. Et quand je parle de la question de fond, c'est l'équilibre entre le pouvoir coutumier et le pouvoir de l'État moderne sur la gestion des terres.
Et pour terminer, on a vite compris que la situation a pris de l'ampleur dans un laps de temps. Quels sont les témoignages que vous avez recueillis sur place par rapport à justement la provenance de ces armes à feu tout comme à ces armes blanches?
Par rapport aux armes, nous avons été sur le terrain, on nous a montré les armes qu'utilisait le groupe qu'on appelle le groupe des Yaka, qui sont plutôt des fermiers avec leurs combattants. Ce sont des flèches, ce sont des machettes, des couteaux, nous avons vu des fusils, des fabrications artisanales. Il y a quelqu'un qui est installé dans une ferme là-bas, un ancien militaire, nous avons le nom, lui fabrique des armes artisanales. Il est connu, mais on a trouvé aussi des armes de guerre. Mais ces gens, quand ils ont commencé leur manifestation, il y a des militaires qui ont été envoyés sur le terrain. Et il y a des militaires qui ont été tués. Ils ont ravi, arraché des armes de ces militaires. On nous a montré ces armes-là. C'est tout ce que nous avons vu. En dehors de ces armes, je n'ai pas entendu qu'il y a d'autres armes sophistiquées qui ont été utilisées là-bas. Le mécanisme demandé au gouvernement pour la résolution de ce conflit. Mon rapport est arrivé hier, il y a tout un travail à faire après, quand nous demandons que la population doit rentrer. Et j'ai porté ce message partout où je suis allé. Il y a quand même des conditions préalables. Premièrement, la sécurité. Et là, c'est le travail de l'armée, de la police. Mais la population qui rentre dans un village brûlé, il doit avoir un minimum de conditions pour pouvoir dormir, pour pouvoir manger. Et là, c'est le rôle du gouvernement, c'est le rôle des services humanitaires, y compris l'Église catholique. Je peux vous rassurer que l'Église n'est jamais partie de cette contrée. Et l'Église, à travers le service de la diaconie diocésaine, a déjà envoyé beaucoup de choses à Kwamout. Il y a des initiatives qui sont déjà prises de la part de l'Église pour apporter sa quote-part. Mais c'est un besoin tellement immense que l'Église seule ne peut pas tout faire. Merci.
Voilà, mesdames et messieurs, complètement terminée cette édition du journal. La mise en onde a été assurée par Alain Goy. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination de Pierrot et la Mézi et la supervision de Noëlla Luzitu Kabambi. Merci aussi à vous pour votre particulière attention.